Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Ismo au micro de Erdiwa. Et pour l'interview du jour, je suis avec Lise Barnéou. Bonjour Lise.
Bonjour.
Toi, tu es journaliste et tu as eu l'occasion de faire une enquête sur les incendies qui ont eu lieu à Die, sur le territoire. Et ça a donné lieu à 3 reportages qui ont été successivement publiés le 6, le 8 et le 10 juillet sur Mediapart. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais faire une brève présentation de ton parcours et par la suite nous expliquer comment tu es venu à faire cette enquête ?
Eh ben oui, donc effectivement, je suis journaliste scientifique. Moi, j'ai fait des études de biologie plutôt. Et finalement, je me suis assez rapidement orientée vers le journalisme scientifique indépendante, c'est-à-dire que je ne suis pas salariée en poste dans un média. Je travaille pour différents médias et je couvre les sciences vivantes, on va dire, la biologie et l'environnement. Parmi mes employeurs, Mediapart, c'est un des médias pour lesquels je travaille le plus. J'écris des articles de vulgarisation scientifique chez eux. Il m'arrive aussi de faire quelques enquêtes pour eux. Et je coordonne la rubrique science, en fait, qui paraît tous les samedis, qui s'appelle Éclat de science.
Tu habites à Die.
Et j'habite à Die. Et donc, quand les feux ont démarré, j'arrive plus à me souvenir si c'est d'abord Mediapart qui m'a contacté ou moi qui leur ai proposé. Mais en tout cas, c'était logique et pour eux et pour moi que je couvre cet événement. Logique et pas logique, parce que moi, c'est vrai que ça fait plusieurs années que finalement, ma pratique du journalisme, c'est, comme je le dis souvent, du slow journalisme, c'est-à-dire que je prends vraiment le temps de faire mes enquêtes, de discuter avec les gens, de soigner l'écriture. Et là, tout à coup, c'était de l'actu chaude. C'était de l'actu chaude chez moi. Et ça, c'est vrai que ça m'était finalement jamais arrivé. Et ça n'a pas été facile du tout. Donc, le premier volet de cette enquête, donc, c'était le lundi, hein, le lundi 6 juillet, je crois. Et donc, on s'était mis d'accord vers midi que je devais leur rendre quelque chose le soir même. Donc, j'avais une après-midi, en fait, pour aller au poste de commandement qui était derrière la déchetterie, au gymnase pour voir un peu comment ça se passait aussi au niveau de l'accueil des pompiers, à la mairie, parce que je voulais avoir des infos aussi de ce côté-là. Et puis, passer plein de coups de fil, notamment dans les villages où je savais que les flammes étaient proches, en fait, notamment à Montmort. Et en fait, ça a vraiment été dur pour moi, cette première journée, de me retrouver notamment en ligne avec un ami de Montmort qui était en train d'évacuer et qui, évidemment, était en panique, en fait. Et c'est vrai que, voilà, je suis sortie de cette journée complètement épuisée à me dire peut-être que je vais m'en tenir là parce que ça va être trop dur pour moi de couvrir l'événement. Peut-être que je devrais plutôt aller faire, comme tout le monde, bénévole au gymnase. En termes de santé mentale, ce sera peut-être mieux. Et puis finalement, le lendemain, j'ai mis ma casquette journaliste et j'ai fait ça toute la semaine, quoi, couvrir l'incendie pour Mediapart.
Oui, en fait, c'était important pour toi, pour ta personne, d'être là sur les lieux et de faire cette série de reportages.
Important et difficile, comme je viens de le dire, mais important, oui, parce que je pense que finalement, enquêter, expliquer, vulgariser, c'est quand même ce que je sais faire. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être là où je pouvais le plus aider, parce que je me suis aussi vite rendu compte que les gens avaient besoin d'informations et qu'ils ne les trouvaient pas forcément facilement.
Maintenant que on a passé cette période de crise, de panique, quelle est ta vision, donc un peu plus à froid, de comment ça s'est passé et des retours que tu as pu avoir après cette série de reportages?
Bah, peut-être ce que je peux raconter d'abord, c'est comment les choses ont évolué au sein même de cette semaine, de cette unique semaine de couverture de l'incendie. Donc le lundi, comme je l'ai dit, c'était ma première journée d'investigation, on va dire. Et là, c'était chouette parce que j'avais vraiment accès aux informations. C'est-à-dire que quand je suis passée à la mairie, j'ai pu appeler les services techniques de l'eau, par exemple, parce que c'était un de mes gros sujets pour le premier papier. Comment on arrive avec cette ressource de l'eau qui est quand même en tension dans notre territoire, comment on fait face pour à la fois donner de l'eau aux habitants, aux touristes, à l'agriculture, aux industries et combattre un feu, sans oublier l'eau pour le milieu. Donc ça, c'était chouette pour moi de me rendre compte que partout où j'allais, les gens avaient envie de donner des informations. Et donc, c'était un travail journalistique comme j'avais l'habitude de le faire sur d'autres sujets. Mais en tout cas, les gens étaient là pour répondre. Mais les choses ont complètement changé à partir du mardi, en fait, où tout à coup, la préfecture a décidé que seuls ces communiqués pouvaient être relayés par la ville. Et là, tout à coup, plein de sources d'informations se sont fermées. Finalement, la mairie ne pouvait plus nous parler en direct, ou alors qu'avec des périphrases, ou alors qu'en citant ce que la préfète avait décidé qu'il était autorisé de dire, quoi. Et finalement, la vision de la communication de la préfecture, c'était ayons un message très rassurant. Il faut pas angoisser la population. Et du coup, on se retrouvait avec des messages tellement rassuristes qu'ils étaient vraiment trop loin de la réalité et de ce que les Diwa vivaient. Et donc là, à partir de là, je me suis retrouvée dans une situation assez nouvelle pour moi, c'est-à-dire qu'on est... j'imagine que ça peut être... C'est peut-être caricatural ce que je vais dire, mais c'est comme ça que je vois les communications dans certains pays autoritaires, par exemple en Russie, où on n'a qu'un seul canal d'information et c'est difficile d'aller en fait à chercher les infos au plus près des personnes qui les ont, en fait, ces informations-là. Et donc, à partir de ça, j'ai changé ma manière de faire et finalement il fallait aller sur le terrain, comprendre où étaient les flammes quand elle disait que aucun autre hameau avait été évacué et que moi je voyais bien que c'était faux, que des personnes avaient dû quitter leur maison, non pas de manière volontaire mais parce que les pompiers étaient venus leur demander de partir ou parce que les gendarmes étaient venus leur demander de partir. Et en même temps, la préfète nous disait qu'il n'y avait aucune évacuation en cours. Donc, il fallait arriver à comprendre le discours des uns et des autres. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on ne parle pas le même langage. C'est-à-dire que pour la préfète, n'est appelée évacuation que lorsque elle-même a ordonné l'évacuation. Or, en fait, elle avait ordonné l'évacuation que de Barsac, Montmor, le Martouré, l'autre camping Valdi, là, et puis après Ausson. Mais sinon, les autres quartiers, en fait, il n'y a jamais eu d'ordonnance préfectorale d'évacuation. Donc pour elle, les personnes qui sont parties, ce n'était pas des évacuations, quoi, c'était des départs volontaires. Alors qu'en fait, les pompiers, souvent, passaient dans les maisons en leur disant « Nous, si vous partez, ça nous enlève une grosse charge mentale. » Même les gendarmes passaient, ils ont même fini par bloquer des routes pour interdire aux habitants de retourner dans leur maison. Et comme il n'y avait pas eu de protocole d'évacuation avant, finalement, ces personnes se sont trouvées sans avoir pu faire de valise.
Donc, oui, ça a généré une grosse incompréhension générale, en fait.
Voilà. Donc c'est ça que j'ai essayé ensuite de raconter, tout en restant quand même aussi sur des informations... moi, je voulais essayer de comprendre ces fameux Canadairs. Est-ce qu'on en a... À quel point ça pourrait changer la donne? Pourquoi ils ne viennent pas chez nous? Enfin, voilà. En fait, il y avait énormément de questions pour lesquelles on n'avait pas forcément toutes les réponses immédiates.
Oui, et puis ça, tu le mentionnes, les Canadairs, mais c'était quand même une des premières questions des habitants du territoire, c'est où sont les Canadairs? Ouais. Et ça a été un petit peu vécu très difficilement par les gens qui n'avaient pas vraiment les informations.
Voilà. Et ça aussi, ça faisait partie de la communication qui était compliqué de la part de la préfète, de dire, on a des moyens aériens, sans vraiment préciser, ou en disant, on n'a pas forcément besoin des Canadairs maintenant, alors qu'à côté de ça, on parlait avec des pompiers quand même, qui nous disaient que ça changerait carrément la donne. En fait, ce que j'ai pu comprendre, moi, dans ces histoires de Canadairs, c'est qu'on en a 12 en France, dont 2 qui sont en maintenance et 2 qui sont alloués à la Corse. Donc, en fait, on en a 8 sur le territoire hexagonal. Sachant que c'est quand même des avions qui sont assez vieux, hein, qui étaient prévus pour être remplacés, qui ne le sont pas encore, mais qui ont été fabriqués dans les années 90.
Oh, il y a ce détail aussi qui n'est pas des moindres.
Voilà, donc ils ne peuvent pas voler en continu, sans compter qu'il y a aussi les pilotes, qu'il faut bien qu'ils fassent des pauses, etc. Bref, donc on n'en a pas forcément 8 en activité chaque jour. Et donc sur ces 8, il existe un centre de coordination des moyens aériens de la sécurité civile basé à Nîmes qui est censé faire les arbitrages de où on envoie les Canadair. Donc j'ai compris que le critère numéro 1 pour allouer les Canadair, c'était de les envoyer sur les feux naissants, les tout débuts de feux, quoi. Et c'est pour ça que nous, on en a eu le 24 juin, quand il y a eu l'éclair qui a au début allumé le premier incendie. Et puis de nouveau le jeudi 2 juillet, quand on a eu la reprise, je crois que c'est le lendemain, le vendredi ou le samedi, je ne sais plus, on a eu de nouveau des Canadair. Là, on était dans une situation où on considérait qu'on était dans un feu naissant. Et puis après, on les a demandés le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'au jeudi. Je crois qu'ils sont venus jeudi, c'est ça. Enfin, en tout cas, on les a demandés 4 jours et on ne les a pas eu pendant 4 jours. Un des arbitrages, c'est par rapport à cette idée de feu naissant, hein, sachant qu'on avait plein de feux naissants en France à ce moment-là, et pas seulement dans le sud de la France d'ailleurs.
C'est ça, oui, voilà, c'est ça aussi un des problèmes.
8 Canadair pour une région, ça va, mais 8 Canadair pour l'Hexagone entier, c'est impossible, hein, ça, c'est tous les pompiers me l'ont dit. Et autre chose aussi que j'ai compris en discutant avec certains pompiers, quand même, c'est que quand on est dans une forêt telle que la nôtre, avec de la monoculture de pins, des pins assez hauts en fait, le Canadair, il va larguer ses 6000 tonnes d'eau sur la cime des arbres. Et en fait, l'eau ne va pas forcément percoler jusqu'au sol. Or, le feu, il couvait dans le sol. En ce moment, on a un indice d'humidité des sols extrêmement faible. Et ce qui fait qu'on le voyait d'ailleurs quand on était à Die et qu'on regardait la forêt de Justin, là, on voyait cette ligne de feu descendre. Mais ça, c'était le sol, en fait. Hein. Ce n'était pas les arbres, c'était vraiment le feu dans le sol.
Ah oui.
Et en fait, le Canadair, lui... quand il largue ses 6000 tonnes d'eau, l'eau ne va pas forcément au sol. Et donc, c'est pour ça que ce pompier me disait, ça fait descendre la température. Et oui, ça aide, évidemment. Mais de toute façon, si on n'a pas des équipes au sol pour ensuite arroser directement sur le sol, le Canadair, il ne sert à rien, quoi. Il faut quand même... ce n'est pas la solution idéale où ils arrivent et paf, ils éteignent l'incendie. Pas du tout, pas dans une forêt comme la nôtre. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'au-delà des Canadair, on avait des hélicoptères bombardiers d'eau qui faisaient beaucoup d'allers-retours. Et ces bombardiers d'eau, ils peuvent avoir jusqu'à 4000 litres aussi d'eau. Et ils font des allers-retours très rapides parce qu'ils pouvaient se recharger, par exemple, sur le lac de Vercheny. Et donc, eux aussi, en fait, ils étaient hyper utiles. Aussi utiles, finalement, qu'un Canadair, parce qu'ils peuvent faire deux, trois allers-retours pendant que le Canadair en fait qu'un, en fait.
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, il y a une flexibilité par rapport à ça.
Voilà, c'est plus agile et plus rapide, quoi. Et puis, enfin, il y a les fameux Dash, hein, ces avions qu'on a vus aussi, qui sont beaucoup plus longs. Ils ne sont pas jaunes, ils étaient blancs et très longs. Et eux, ils ont carrément 10 000 litres d'eau. Mélangé au retardant. Hein. Par contre, les Canadair, ils ne peuvent pas avoir de retardant parce qu'eux, ils vont directement dans le Rhône, ils se remplissent et ils repartent. Oui. Alors que les Dash, ils sont remplis au sol. Bon, c'est un problème parce que du coup, ça prend du temps. Mais par contre, c'est un avantage parce qu'on rajoute ce retardant à leur chargement. Et eux, leur technique, c'est plutôt d'aller larguer leur liquide en amont du feu, dans les zones qu'on veut protéger avant que le feu arrive. Ils vont imbiber en fait les arbres de cette eau et de ce retardant, et le feu viendra mourir dessus au moment où il va cogner contre cet endroit, quoi. Donc voilà, on a plein d'outils différents pour combattre le feu, et l'idéal évidemment, c'est de les avoir tous pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et là, nous, on n'a pas bien pu jouer sur les Canadair, c'est sûr.
Tu mettais en lumière tout à l'heure le fait que ça nécessite donc beaucoup d'eau, tous ces appareils, pour aider à combattre le feu, et qu'on est déjà en période, avant même l'été, dès le début juin, on était dans une période de pré-sécheresse, j'ai envie de dire, quoi. Donc, quel est toi ton ressenti par rapport à ça, et tes questionnements, en fait?
On était même déjà en alerte sécheresse, avant l'incendie. Et moi, c'est vrai que j'ai découvert ça dès le premier jour, que les camions citernes des pompiers se rechargeaient sur les réseaux d'eau potable, en fait. Donc toutes les pompes à les poteaux à incendie qu'on a dans les villes, en fait, c'est les réseaux potables. Et donc, à dit, on n'a pas forcément en tout cas, pour l'heure, on n'a pas de problème de réserve d'eau. Hein. On est alimenté par le Vercors, qui est quand même un énorme château d'eau. Mais ce n'est pas le cas des autres hameaux dont les sources ne sont pas situées sur le Vercors lui-même. Notamment Montmort-Barsac, ils ont des réserves d'eau qui font 50 ou 100 tonnes. Ce n'était pas forcément un problème l'eau pour dit, parce que nous, on a notre source qui vient du Vercors, et le Vercors, c'est quand même le château d'eau de la région, donc on a des réservoirs qui se remplissent très vite. Mais ce n'est pas le cas des autres communes alentour, hein, et notamment Barsac et Montmort, qui eux ont des sources qui viennent du massif du Justin, et des réservoirs qui font 50 mètres cubes, donc 50 000 litres, ou 100 000 litres, je crois, pour Montmort. Or, les camions-citernes, par exemple, c'est 3 000 litres, en fait. Donc ça va très vite. Ils ont très rapidement vidé les réservoirs, et tout à coup, les pompiers manquaient d'eau pour combattre le feu. Et donc, on venait les chercher à Die pour re-remplir les réservoirs dans ces communes-là. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis intéressée à l'eau, pas seulement l'eau potable, d'ailleurs, parce que, pour le coup, les hélicos, eux, ils se rechargent dans les trous d'eau de la Drôme.
Ou oui.
Ils se sont aussi rechargés dans la carrière à Montmort, là, où il y a des bassins artificiels. Mais enfin, la question de la ressource en eau dans un territoire où on est passé, d'ailleurs, pendant cette semaine, on est passé de l'alerte sécheresse à l'alerte renforcée. Donc, avec vraiment des indicateurs de débit d'eau dans les rivières très, très bas, quoi. Et donc, je me demandais à quel point on avait assez d'eau sur un territoire comme le nôtre pour à la fois donner à boire à la population, faire tourner les activités agricoles, industrielles, et puis voilà, combattre le feu. Donc ça, c'est une question. Je comprends que, bon, pour l'instant, on n'a pas encore les chiffres de combien d'eau on a utilisé hein, pour combattre ce feu, mais c'est ça, on a déjà compris que dans les communes alentours, c'était un gros problème, l'accès à l'eau. Et d'ailleurs, je vais juste souligner que l'avantage des Canadairs, hein, par rapport aux hélicoptères, c'est que eux, ils se rechargent dans le Rhône. Et finalement, ils prennent l'eau dans un territoire qui est moins en tension que le nôtre. Et donc ça, c'est aussi un avantage dont on n'a jamais trop parlé, mais qui, en fait, à mon avis, dans le futur, sera à prendre en compte.
Mais c'est sûr, hein, parce que les étés vont être de plus en plus chauds, la rivière risque d'être de plus en plus basse. Dans le Rhône, il y a quand même un volume plus important d'eau, mais ça prend un certain temps pour les Canadairs d'aller le récupérer là-bas. Bon, donc voilà, c'est toute une logistique hein, qui accompagne tout ça. Et effectivement, quelles seront les mesures prises en compte pour affronter de prochains étés chauds et avec des risques d'incendie hein. C'est tout le questionnement.
Et du coup, je rebondis là-dessus pour insister sur le fait que ce qu'on a vécu là, c'est pas simplement un éclair qui vient foutre le feu à une forêt vieillissante, en fait. On est dans un contexte de réchauffement climatique et c'est extrêmement important de comprendre que le réchauffement climatique, c'est des températures plus élevées, mais c'est aussi un taux d'humidité extrêmement faible hein, dans les sols. C'est aussi donc une sécheresse globalisée. C'est aussi plus de vent. Donc ça aussi, c'est un facteur qui excite les feux. Et enfin, c'est aussi plus d'événements extrêmes comme les orages et les orages secs et donc les éclairs. Et donc il faut bien avoir en tête que cet événement qui vient de se produire, c'est pas juste c'est la nature. Non, c'est la nature transformée par le réchauffement climatique tel qu'on le connaît depuis un demi-siècle, quoi.
Il y a des vraies mesures à prendre, effectivement, pour pouvoir affronter sereinement l'avenir. Qu'en est-il du reboisement de toute cette forêt qui a souffert de l'incendie ?
Oui, bah ça, c'est sûr que ça va être un gros chantier à venir. Donc, les forêts qu'on a ici, c'est des forêts qui ont été plantées au début du siècle dernier hein, par les programme de restauration de terrains de montagne. Et à l'époque, évidemment, on ne se souciait pas du réchauffement climatique ou des incendies. Hein. L'objectif, c'était de diminuer le risque de crue et d'érosion des sols. Et en ça, ça a plutôt bien fonctionné. Hein. Cette opération de reboisement a extrêmement bien fonctionné, mais on s'est retrouvé avec des monocultures de pin noir. Et ça, c'est en termes de risque incendie, c'est quand même mauvais. En fait, tout le monde explique que ce type de d'arbre est extrêmement inflammable et que quand on a les mêmes essences partout, ben le feu, c'est une autoroute pour lui. Donc oui, il va falloir réfléchir à comment repenser nos forêts pour qu'elles soient plus résilientes dans le climat futur.
Tu parlais tout à l'heure, en début d'émission, des complexités de communication avec notamment la préfecture et les autres institutions. Est-ce que tu as eu des problèmes similaires avec les pompiers, où la communication a été plus simple avec les pompiers pour avoir justement les informations, pour tenter de trouver les informations?
Les pompiers, c'est des humains comme tout le monde, donc ils sont prêts à parler et à partager leurs informations, mais en vrai, ils n'ont pas le droit. Ils sont sous la responsabilité de la préfecture. Et donc, les pompiers avec qui je discutais, le contrat, c'était que c'était anonyme, quoi. Personne n'acceptait, à part le pompier chef qui faisait les conférences de presse avec la préfète. Sinon, c'était des témoignages anonymes. Et ça, je peux le comprendre, évidemment, pour ces pompiers, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi des problèmes d'accès à l'information auxquels je n'avais pas réfléchi avant de me lancer dans cette enquête.
Oui, je comprends. En tant que journaliste, toi, tu as réalisé 3 reportages. Quels ont été les autres freins auxquels tu t'es retrouvé confronté pour réaliser ces reportages?
Non, je pense pas qu'il y a eu d'autres freins, parce que donc moi, mon objectif, c'était vraiment de comprendre ce qui se passait et d'en faire part. Donc j'ai pas eu ni l'envie ni le besoin en fait de me rendre sur place avec les pompiers. En fait très vite, il y a eu beaucoup de collègues nationaux qui sont arrivés à Die, hein, pour couvrir l'événement. Notamment, il y avait BFM TV, il y avait ICI, il y avait TF1. Et eux, c'est de l'audiovisuel, et donc eux, leur objectif, en fait, c'était d'arriver à être embarqué avec des pompiers sur le feu, en fait, ou de pouvoir embarquer sur l'hélico. Moi, ça m'intéressait pas du tout, c'était pas ce genre d'infos que je recherchais, et donc globalement, pour moi, mon seul frein, c'était d'accéder à des infos fiables, en fait, et puis mon autre frein, c'était juste d'essayer de comprendre. De comprendre, par exemple, ces fameux arbitrages de Canadair, de comprendre pourquoi la préfecture affirmait qu'il n'y avait pas d'évacuation quand nous, on voyait bien qu'il y en avait. Enfin, voilà, c'était d'essayer de démêler, en fait, de démêler tous ces fils. Et puis peut-être aussi d'éteindre des rumeurs qui partaient très, très vite par manque d'informations parmi la population, même si ce n'était pas mon objectif d'éteindre les rumeurs, mais en tout cas de donner les informations qui permettaient d'avoir des réponses à beaucoup de questions que se posaient les gens.
Mais c'est sûr que la population était complètement perdue pendant ces quelques jours. Les informations fusaient un petit peu au compte-gouttes, mais on avait du mal à distinguer le vrai du faux. Et puis des ordres, des fois spontanés, un peu d'évacuation de la part de la gendarmerie, dont on n'avait pas entendu parler auparavant, donc qui a contribué peut-être à mettre une partie de la population encore plus dans l'angoisse qu'elle ne l'était déjà.
Oui, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi non plus à bien comprendre, comment la gendarmerie décidait d'informer les quartiers de futures évacuations. Donc, je sais qu'ils sont passés dans le quartier de Cocos, ils sont passés dans la rue Camille Buffardel.
En disant, préparez-vous parce qu'il y aura peut-être une évacuation préventive.
Voilà. Et j'ai compris que ça n'avait pas du tout été un ordre de la préfecture, donc elle était sûrement assez furieuse de cette initiative, mais j'ai pas réussi à comprendre comment la gendarmerie avait organisé ces mises en garde. Voilà, il reste encore vraiment plein de questions, et je pense que à la rentrée, là, ce serait bien de se poser avec tous les acteurs pour essayer de comprendre comment les choses se sont déroulées et comment on pourrait imaginer les améliorer pour une prochaine fois.
Tu penses qu'une telle rencontre aura lieu à la rentrée?
J'ai l'impression qu'il y a déjà des initiatives de comment penser l'après qui sont en route. Là, j'ai eu vent hier d'une réunion organisé par les agriculteurs, notamment avec la Confédération paysanne, pour essayer de penser comment eux pouvaient se relever de tout ça, mais aussi
prévenir.
Mieux prévenir ce genre d'événement. Et j'ai vu aussi que la préfecture lançait des réflexions sur l'après. Donc oui, j'ose espérer que ce genre de réunion aura lieu. Oui.
Si jamais tu te retrouvais face à la préfète, dans nos locaux par exemple, quelle serait la première question qui te viendrait à l'esprit à lui poser ?
Ben moi, j'aimerais bien comprendre comment elle voit la communication du risque. Et c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà travaillé sur d'autres sujets, notamment pendant la pandémie. On a souvent tendance à penser la communication du risque comme un moyen de rassurer la population en ayant des propos rassurants. Mais en fait, ce que la recherche de la communication du risque montre, c'est que ce n'est pas la meilleure manière de procéder et qu'il vaut mieux jouer complètement le jeu de la transparence, donner les informations telles qu'elles sont et faire le pari que la population est suffisamment intelligente pour comprendre les faits et prendre les décisions en fonction de sa propre perspective, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, ni par rapport à l'angoisse que ces événements génèrent, ni concrètement par rapport à où on habite, par rapport à nos problèmes de santé. Une personne asthmatique, elle avait tout intérêt à partir, et moins une personne sans difficultés respiratoires. Et donc voilà, je pense que plutôt que d'avoir cette envie de rassurer en permanence, quitte à tordre la réalité, je crois qu'il faut vraiment changer de logiciel sur notre communication du risque et donner les informations de manière la plus transparente possible pour que chacun puisse prendre des décisions éclairées ensuite.
Il est vrai que devant une communication un peu chaotique, comme ça a été, beaucoup d'individus isolés ont essayé de trouver des informations de leur côté, que ça soit sur les réseaux, que ça soit ailleurs, et ça a donné de multiples interprétations également. Ça, c'est également un problème pour aider à une cohésion de stratégie générale.
Voilà, mais alors cohésion, c'est à ce titre que la préfecture a décidé de fermer les réseaux de la mairie pour une meilleure cohésion. C'est comme ça qu'ils me l'ont expliqué, parce que j'ai quand même demandé pourquoi la ville ne pouvait plus avoir ses propres communiqués, etc. Et ce qu'on m'a répondu à la préfecture, c'est qu'on cherchait une meilleure cohésion, une meilleure coordination de tous les messages. Alors, j'entends que c'est important d'avoir des messages coordonnés et qu'il ne faudrait pas qu'un canal d'information dise quelque chose qui est contredit par un autre canal d'information. Néanmoins, les communiqués qu'écrivait la mairie pendant le week-end ou bien le lundi ou encore le mardi matin, je crois qu'ils en faisaient 4 ou 5 par jour. C'était pas non plus... la préfecture trouve que c'était trop. Moi, je pense que c'était un nombre à peu près normal vis-à-vis de l'angoisse que tout ça générait. Et j'ai compris que tout le monde s'était mis à suivre, en fait, ces fils-là, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ou bien ils avaient aussi mis un système de publication sur la mairie pour ceux qui n'avaient pas les réseaux sociaux. Je sais qu'un de ces communiqués faisait référence aux têtes de feu devenues incontrôlables. Le lundi, il y avait eu ce mot « incontrôlable ». Et ben, je crois que c'est un des mots qu'a décidé la préfète de prendre la main sur la communication et leur demander donc de s'en tenir à ses propres communiqués. Et en même temps, ce mot « incontrôlable », techniquement, cette journée-là, on était passé de 400 hectares à plus de 1000 hectares. Et les pompiers, quand on leur posait la question, ils disaient « incontrôlable ». Donc, ça ne me paraît pas... techniquement, ça ne me paraît pas faux. Mais moi, je n'ai pas rencontré de personnes qui ont été angoissées par ce communiqué. Mais en tout cas, c'est un des arguments de la préfecture pour dire « c'est pas comme ça qu'il faut communiquer à la population ».
Lise, on rappelle que tu as écrit 3 reportages sur Mediapart que les auditeurs peuvent consulter. Ils sont en ligne.
Ils sont en ligne, oui. Je peux en faire don à Erdiwa qui, si vous voulez les lire, vous pouvez peut-être contacter Erdiwa qui vous les retransfère. Je peux faire ça.
Oui, tout à fait. C'est chouette, ça. C'est chouette. Est-ce que tu veux dire une dernière parole avant de clore cette interview ? Est-ce que ça t'inspire une dernière réflexion ?
Peut-être ce que je n'ai pas du tout raconté là, c'est qu'on s'est tous rendu compte que durant cette semaine, il y a eu un mouvement de solidarité incroyable sur le territoire. Vous avez tous vu qu'il n'y avait plus aucun créneau de libre pour être bénévole au gymnase. Les collectes de nourriture débordaient, on a dû les stopper. Tout le monde est venu prêter main forte pour débroussailler. Enfin, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose de très chouette. On a vécu quelque chose de très chouette malgré tout.
C'était incroyable.
Et donc, ça montre à quel point on a quand même un territoire riche en termes de soutien citoyen. Je pense que ce n'est pas la seule réponse. Et moi, je plaide pour que les services publics jouent leur rôle. Je ne pense pas que la lutte contre le feu doit être quelque chose de bénévole qui repose sur la générosité des citoyens. Mais en revanche, je trouve que ça donne beaucoup d'espoir sur comment nous, sur ce territoire, on peut faire face à des situations de crise. Ça donne de l'espoir, en tout cas, en termes de relations humaines. Et je ne suis pas sûre que cette dimension-là existe dans tous les territoires.
Ah ouais, alors ça réchauffe le cœur quand même aussi. Et on espère que ça pourrait servir même en dehors de périodes
de
crise.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ça nous amène de l'espoir aussi. Merci infiniment, Lise, pour nous avoir amené tes éclaircissements sur ces incendies et sur ta vision en tant que journaliste de ces incendies.
Eh ben merci pour cette discussion.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Rasta gwine clip them tail. Babylon's burning. Babylon's burning. Babylon's burning. But there's no water. Fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. But there's no even the dog that piss against the walls of Babylon shall escape Jarrah. Just strong. Quake, Nika. Quake, I say. Quake. Blood and fire. Blood and fire. Blood and fire. But there's no water. Who you gonna run to now? Who you gonna run to now, boy? Who you gonna run to now? When I and I hold you. Fire, 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 fire.